Jusqu'ici, j'avais été à l'abri. Ma vie, lorsque j'y pensais, m'apparaissait bizarrement comme quelque chose de rond. J'ai eu une vie confortable, me disais-je. S'associer à cette idée de confort, le souvenir des séjours dans les villes d'art, les bons hôtels. Je m'étonnais de ce mot. Le confort n'avait pourtant jamais fait partie de mes valeurs, croyais-je. Il m'apparaissait que cela avait gouverné mes choix de vie beaucoup plus que je ne le pensais. Le rythme de vie, les lieux de vie, surtout le rythme que j'avais toujours défendu envers et contre tout. Catherine Millot est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Un peu profond ruisseau ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, ce sera « Clou rouge ». Pourquoi votre grand-père, lorsque vous étiez petite, Catherine Millot, vous a-t-il dit un jour que s'il revenait dans vos souvenirs, il ne fallait pas que vous ayez peur ?
Je me suis demandé, enfin c'était un souvenir que j'avais, et qu'il m'avait dit ça quand j'étais plutôt adolescente. Et je me suis demandé après coup si c'était pas un faux souvenir, tellement ça m'est apparu bizarre qu'il m'ait dit ça. Et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout croyant, hein, c'est, et donc bon, cette idée de revenir. Mais Mais disons, ce que j'avais entendu dans cette parole, c'était une parole d'amour. C'est-à-dire que je n'avais rien à craindre de lui et qu'il n'avait à mon égard aucune ambivalence. Et c'est vrai, enfin, c'est ce que je ressentais.
Vous croyez au revenant ?
Si je crois au revenant, ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai une bibliothèque qui lui appartenait, qui était dans son bureau, et qui est dans le mien maintenant, et souvent elle craque. Et c'est du bois ancien, comme ça, qui travaille. Et je me dis que c'est mon grand-père qui me fait des petits signes.
Vous vivez avec les morts ?
Oh non, pas spécialement. Mais peut-être... enfin, j'ai pas l'impression de vivre spécialement avec les morts, mais quand même, il y en a dont je me souviens souvent, auxquels je pense souvent. Mon père, par exemple, et puis ce grand-père. Enfin, bon, je m'en souviens.
Vous avez eu une enfance et une adolescence assez particulières, puisque vos parents voyageaient beaucoup et vous ne vous fixiez jamais dans la même ville. Et vous avez développé, je crois, assez jeune, Catherine Millot, une propension à ne pas vouloir aller à l'école, à ne pas vous trouver dans une communauté, mais à demander à vos propres parents d'être seuls. Pourquoi ?
Alors, enfin, il s'est trouvé que mes parents, enfin mon père qui était diplomate, a été nommé dans des postes où il n'y avait pas d'école française. C'était d'abord à Budapest, dans les années 50, et donc j'ai eu des institutrices, des moins bonnes institutrices, mais une excellente institutrice, qui a fait que quand je suis revenue en France, je n'étais pas trop perdue sur le plan scolaire, mais... justement, quand j'avais 9 ans, on était revenu de Hongrie et j'avais demandé à aller à Notre-Dame de Sion. J'avais demandé parce que je pensais pouvoir y retrouver la fille d'une amie de ma mère, enfin, qui était la sœur de petits copains à moi. Et j'ai passé une journée là-bas et je suis rentrée en larmes, et j'ai absolument refusé d'y retourner. Et j'avais un père compréhensif qui avait lui beaucoup souffert de son éducation au lycée, en fait, et qui donc m'a retiré aussitôt de cette Notre-Dame de Sion. J'ai poursuivi mes études avec le cours Atmer, qui était un cours qui m'allait comme un gant, je peux dire. C'était dans les petites classes, c'était quand même un peu austère parce qu'il n'y avait qu'une matinée par semaine où on se retrouvait à ce cours. Et puis par la suite, donc ça me permettait de suivre mes parents en Finlande, par exemple, et de suivre des cours par correspondance aussi avec quelques cours particuliers, mais pas beaucoup. Et je gérais les choses toute seule. C'est-à-dire que je peux dire qu'effectivement, à l'âge de 12 ans, 13 ans, enfin, je travaillais seule avec mes cours par correspondance que personne ne surveillait. Donc j'étais, je peux dire, assez autonome.
Qu'est-ce que la solitude ? Comment vous la définiriez, vous qui avez écrit un livre qui s'intitule « Oh, solitude », une sorte d'élégie de la solitude ?
Alors la solitude, pour la définir, c'est là vous me prenez un peu de cours. Hein. La solitude, c'est quand même peut-être de ne pas avoir d'interlocuteur. Et que je pense que quand on est enfant, c'est rare qu'on ait un interlocuteur. Les parents ne sont pas volontiers des interlocuteurs pour leurs enfants, en tout cas à mon époque. Voilà, donc en effet, c'était une solitude aussi, enfin d'absence de, on peut dire, de possibilité de finalement de faire appel. Sauf que j'avais quand même pu faire appel à mon père pour qu'il m'enlève de Notre-Dame de Sion.
De votre père, vous venez de parler deux fois, mais de votre mère, vous ne parlez pas. Mais dans le livre qui paraît ces jours-ci, vous en parlez beaucoup.
Beaucoup, oui, j'en parle beaucoup. Et elle est morte maintenant, quand j'ai écrit ce livre.
Elle n'est pas morte dans le livre.
Non, elle n'est pas morte dans le livre. J'ai écrit le livre l'été dernier, elle était encore vivante, et elle est morte au mois de février dernier. Donc à un mois de ses 101 ans. Et enfin, bien sûr, à elle aussi, je pense. Hein, c'est forcément souvent.
Vous y pensez, mais en même temps, on a l'impression que quand votre mère parvenait jusqu'au dernier rivage, elle restait vivante tout en ne communiquant pas beaucoup avec le monde. Et vous, dans votre itinéraire, à la fois intellectuel, psychique et mental, on a l'impression, à vous lire, Catherine Millot, que vous avez réalisé des choses assez tardivement sur votre existence et sur votre lien avec votre mère. Comme si, peut-être ai-je mal compris, mais comme si vous réalisiez, au moment où elle allait mourir, que peut-être elle avait jamais voulu que vous viviez, vous, et que vous existiez, vous.
J'ai découvert l'importance dans mon parcours et dans ce que j'ai pu écrire, l'importance d'une sorte de verdict du médecin qui a accouché ma mère, qui était une sorte de condamnation à mort. C'était comme ça que fantasmatiquement, ensuite, je l'ai...
Vous ne deviez pas vivre.
C'est-à-dire qu'il pensait que j'étais en mauvais état, disons, à la naissance, et qu'il pensait que je n'allais pas survivre. Et il avait dit à mes parents que, mais après, il fallait s'y préparer, qu'un premier enfant, c'était assez fréquent que ça se passe comme ça. Mais le point, c'était que ma mère me l'a souvent répété. C'était alors que mon père, pas du tout.
Sur quel ton elle vous le répétait, que vous n'auriez pas dû vivre?
Bien sûr, sur le ton de la dramatisation. Enfin, c'était que j'avais failli mourir à la naissance. Alors, ce faillir mourir, c'est quelque chose, effectivement, c'est ce qu'on appelle, nous, les Lacaniens, un signifiant, hein, qui est que je retrouve dans ma vie. D'abord, que j'ai retrouvé avec le coronavirus, où j'ai failli mourir du coronavirus. Et c'est ça qui, d'une certaine façon, a déclenché l'écriture l'été dernier de ce dernier livre, quelques mois après avoir été guéri de cette maladie, où j'ai repris quelque chose que j'avais découvert déjà il y a plusieurs années, c'est-à-dire à la suite d'une intervention d'une auditrice lors d'une présentation d'un de mes livres, qui avait dit des choses qui m'avaient fait découvrir l'importance finalement de cette parole initiale du médecin, et que je pouvais retrouver, quelque chose que je pouvais retrouver dans tout ce que j'avais écrit, à ma grande surprise. Ce que je n'avais pas réalisé. Alors, bon, mais en même temps, je dirais qu'il ne faut pas dramatiser un vœu de mort. Hein. C'est quelque chose qui fait partie, c'est certainement de l'accueil qu'on fait d'un enfant. Il y a du désir de qu'il vive, et puis il y a certainement aussi toujours plus ou moins le désir qu'il meure.
En tout cas, dans ce dernier livre, Catherine Millot, vous insistez sur le fait que votre mère vous fait comprendre que vous n'êtes jamais à la hauteur de ses espérances.
Ses espérances, c'est...
En tant
c'est
que fille.
C'est que je n'étais jamais assez présente pour elle. Voilà, c'était ça, ses espérances. C'était pas qu'elle avait des espérances pour moi, pour ma vie, pour, mon bonheur ou ma réussite. C'était pas du tout son souci. Elle était surtout soucieuse que je m'occupe d'elle, et que je sois, que je lui fasse
compagnie. À sa dévotion.
Voilà, on peut dire un peu ça, oui.
Vous venez de dire, Catherine Millot, que vous étiez lacanienne. Alors, il faut expliquer qu'être lacanien, c'est d'abord être psychanalyste et d'obédience lacanienne. Vous avez écrit un livre sur Jacques Lacan, Ma vie avec Lacan.
Vie avec Lacan.
Pardon. Ah, alors justement, là, on est en pleine psychanalyse. Oui. C'est pas Ma vie avec Lacan.
Non, c'est La vie avec Lacan.
Quelle est la différence? Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup partagé deux vies avec Jacques Lacan.
Oui, mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent dans ce livre, c'était ce que c'était que la vie, je dirais presque, du temps de Lacan. Et pas seulement pour moi. pour aussi les autres, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont suivi. Enfin, il y avait la vie avec Lacan. C'était pour moi, ça a été les années 70. Et je pense que pour beaucoup, c'était quelque chose aussi de comme ça. C'était, il y avait la vie avec Lacan, il y a eu la vie avec Lacan, et puis après, enfin, c'était la vie sans Lacan. C'était un autre temps.
Mais c'était comment, la vie du temps de Lacan ?
Ben, ça avait quelque chose d'extrêmement vivant, justement, parce que lui était quelqu'un de très vivant. Son enseignement était tout le temps quelque chose qui vous bousculait, qui vous étonnait, qui vous prenait à revers, ou qui prenait à revers vos certitudes. Enfin, c'était quelqu'un qui était aussi tout le temps sur la brèche, lui. Et donc voilà, c'est le souvenir d'une époque particulièrement vivace.
Mais je vous propose d'écouter sa voix, Jacques Lacan, à propos de l'inconscient et du langage. C'est une archive INA du 29 mai 1976.
La structure dont la psychanalyse impose la reconnaissance est l'inconscient. Ça a l'air bête de le rappeler. Mais ça l'est beaucoup moins quand on s'aperçoit que personne ne sait ce que c'est. Ceci n'est pas pour nous arrêter. Nous ne savons rien non plus de ce que c'est que la nature. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une physique et d'une portée sans précédent, car elle s'appelle la science. Une chance pourtant qui s'offre à nous pour ce qui est de l'inconscient, c'est que la science dont il relève est certainement la linguistique. Premier fait de structure. Disons plutôt qu'il est structuré parce qu'il est fait comme un langage, qu'il se déploie dans les effets du langage. Inutile de lui demander pourquoi, car il vous répondra, c'est pour te faire parler. Tout comme il arrive qu'on en use avec les enfants, en se logeant à son enseigne, mais sans savoir jusqu'où va la portée de ce qu'on croit n'être qu'un tour tout juste bon pour se tirer d'affaire. Car on oublie que la parole n'est pas le langage, et que le langage fait drôlement parler l'être qui dès lors se spécifie de ce parlage. Il est évident que ma chienne peut parler, et même que ce faisant, elle s'adresse à moi. Mais que lui manquant le langage, ceci change tout. Autrement dit que le langage n'est pas réductible à la communication.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Lacan. Je vois que vous l'écoutez avec intensité, Catherine Millot. Comment l'entendez-vous, cette parole qui vient de prononcer et qui est aujourd'hui un des mantras de la psychanalyse? L'inconscient est structuré comme un langage.
Ben, je l'entends, il parle de la parole. Et
qui différencie de la communication.
Oui, et dans ce que j'ai écrit, c'est une parole qui a été tenue devant mon berceau, disons, au moment de la naissance, dont je me suis aperçu qu'elle avait eu un impact que je n'ai pas mesuré pendant des décennies.
Vous voulez dire le médecin, au moment de votre naissance, voilà, qui a dit, oui, à votre mère...
À mes parents, oui.
À votre père aussi, oui. Donc... Elle ne va pas vivre, ou elle doit mourir.
Qu'il était probable que je ne vivrais pas, oui. C'était pas avec une certitude, c'était un médecin...
Et cette parole, elle a perduré à travers les décennies, dans votre corps et dans votre cœur.
Cette parole a eu un effet, à mon insu. C'est surtout ça, c'est que je la connaissais, cette parole, puisqu'elle m'avait été, je peux dire, un peu ressassée par ma mère. Mais j'ai mesuré son impact et ses effets, alors que ça avait agi à mon insu pendant extrêmement longtemps, pendant toute ma vie.
Pourquoi êtes-vous rentrée en analyse avec Jacques Lacan ?
Alors, il y a deux questions là-dedans. Pourquoi êtes-vous entré en analyse?
C'est difficile d'interviewer une psychanalyste. Pardon, je dis c'est très difficile d'interviewer une psychanalyste.
T'en foutais pas. Alors, pourquoi je suis entré en analyse? Bon, parce que j'étais en difficulté. j'étais en difficulté sur le plan professionnel. J'avais commencé à enseigner au lycée et ça m'angoissait beaucoup, ça ne me convenait pas. Donc j'étais vraiment enfin, un peu coincé sur ce plan-là. En difficulté sur le plan aussi de mes relations avec les hommes. Et puis aussi, j'avais eu une expérience, qu'on peut dire une expérience que je pourrais qualifier d'expérience intérieure, mais aussi bien une expérience que je peux qualifier aujourd'hui quand même de mystique laïque, hein, et qui me faisait énigme. Et je souhaitais déchiffrer cette énigme.
Il y a de quoi ? C'était quoi cette expérience de mystique laïque ?
C'est une expérience que je raconte dans Abîmes ordinaires, qui m'est arrivée justement dans mes débuts dans l'enseignement, quand j'ai été parachutée dans un lycée au fin fond de la Normandie, dans le Cotentin, comme ça vraiment, enfin, c'était un peu loin de tout. Et en ayant failli mourir... En échappant de justesse à un accident, voilà. Donc c'était plus les mots qui comptaient. Hein, j'avais failli mourir. Et là, il y avait quelque chose qui s'était ouvert. C'était comme si le ciel s'était ouvert, comme si un couvercle s'était levé. Et c'était une expérience dont j'ai pu trouver après les termes qui convenaient le mieux pour la qualifier. C'est chez Henri Michaud, le vide béatifique. Voilà, c'était une expérience de vide béatifique. Et ça, pour moi, c'était, d'une part, j'étais très nostalgique, j'avais très envie d'y faire retour, de la retrouver.
Mais ça se décide pas, ça vous tombe dessus.
Ça se décide pas du tout. Et je m'étais dit que peut-être que l'analyse pourrait m'aider à cela. Et en tout cas, m'aider à comprendre de quoi il s'agissait là-dedans.
Et alors, je comprends mieux pourquoi, Catherine Millot, vous avez écrit un livre extraordinaire sur les mystiques, La vie parfaite, c'est-à-dire la vie de Eteel Soum, Simone Veil et de Jeanne Guyon.
Oui.
Vous avez voulu vous rapprocher de ces théoriciennes et du mysticisme pour essayer de comprendre ce qui vous était arrivé à vous.
Bien sûr, mais déjà à l'époque où ça m'est arrivé, je lisais beaucoup Maître Eckhart, je lisais Hadwige d'Anvers, je lisais beaucoup des mystiques, enfin, y compris bien sûr Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, enfin, mais surtout la mystique rhénane, qui me semblait plus proche de ce qui m'interrogeait. Donc ça faisait très longtemps que j'avais donc parlé de cette expérience très très tôt, enfin dans les débuts de mon analyse à Lacan.
Alors pourquoi avez-vous choisi Jacques Lacan ? Alors, ça devait pas être si facile de prendre un rendez-vous chez Lacan.
Eh bien, ce qui s'est d'abord, je m'étais dit je voulais faire une analyse avec un lacanien, mais pas avec Lacan. C'était venu. Et puis j'en ai vu deux ou trois avec qui ça n'allait pas, sauf Laurence Bataille, qui s'appelait à l'époque Laurence Bache, donc j'avais pas reconnu qu'il s'agissait de la fille de Georges Bataille, qui elle m'avait beaucoup plu, mais elle n'avait pas voulu me prendre. Elle m'avait envoyé chez quelqu'un avec qui ça n'allait pas du tout. Et j'étais un peu en désespoir de cause, que j'en avais parlé à un médecin qui me suivait à ce moment-là, qui m'avait dit, mais allez donc voir Lacan. Et j'en avais parlé à mon ami aussi, Jean-Noël Vuarnet, qui était un grand spécialiste de la mystique, lui aussi, enfin, qui a écrit des beaux, très beaux livres sur les mystiques. Et lui, il m'avait dit, il vaut mieux aller voir Dieu que ses saints. Je me suis dit, mais au fond, il a raison. J'ai pris rendez-vous avec Lacan.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Catherine Millot, Respire, Gaëlle Faye.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes, ton regard, la vie, c'est l'usine hamster dans sa roue. chefs grands bourreaux. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre, tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts, ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Respire.
Le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire, espère.
Il y a quelque complaisance qui fait que chaque sentiment que nous éprouvons s'exagère, et souvent l'on ne souffre point tant que l'on ne s'imagine souffrir. Je n'ai jamais rien su renoncer, et protégeant en moi à la fois le meilleur et le pire, c'est en écartelé que j'ai vécu. Mais comment expliquer que cette cohabitation en moi des extrêmes n'amena point tant d'inquiétude et de souffrance qu'une intensification pathétique du sentiment de l'existence, de la vie? Les tendances les plus opposées n'ont jamais réussi à faire de moi un être tourmenté, mais perplexe. Car le tourment accompagne un état dont on souhaite de sortir, et je ne souhaitais point d'échapper à ce qui mettait en vigueur toutes les virtualités de mon être. Cet état de dialogue, qui pour tant d'autres est à peu près intolérable, devenait pour moi nécessaire. C'est aussi bien parce que, pour ces autres, il ne peut que nuire à l'action, tandis que, pour moi, loin d'aboutir à la stérilité, il m'invitait au contraire à l'œuvre d'art et précédait immédiatement la création, aboutissait à l'équilibre, à l'harmonie.
Nous venons d'entendre la voix d'André Gide qui lisait un extrait de son journal datant de 1923 et c'est une archivina du 6 juin 1948. André Gide, que vous connaissez bien, Catherine Millot, sur lequel vous avez écrit. André Gide qui parle de son existence comme étant finalement un flux continu de conversation avec lui-même. Et quand on lit vos ouvrages, et particulièrement le dernier, on se dit que vous avez besoin de solitude parce que vous réussissez à dialoguer avec vous-même. Peut-être depuis longtemps d'ailleurs.
J'ai dû, à force de solitude, quand j'étais enfant, j'ai dû développer ce qu'on appelle une vie intérieure. Et surtout, mais c'était surtout lié au fait que j'étais une grande lectrice. J'ai été une grande lectrice très, très tôt. J'ai commencé à lire beaucoup et à être secourue, je peux dire, par les livres dès l'âge de 8 ans, probablement. Et d'envoyer ça, ça m'est resté. Je suis toujours accompagnée d'un livre.
La lecture n'a pas suffi pour nourrir le dialogue intérieur. Mais il y a fallu aussi des rencontres, comme celle avec Jacques Lacan, que vous décrivez très bien dans votre livre, comme celle avec d'autres types d'écriture. Et on a l'impression que les écrivains vous parlent à l'oreille, mais vous parlent aussi de votre manière de, j'aime pas beaucoup ce mot, mais de mener votre existence.
Sûrement, mais ce que, enfin, au fil des livres que j'ai pu écrire, c'était dans un dialogue avec certains écrivains d'élection à un moment donné que je lisais, dont je lisais pratiquement toute l'œuvre, et écrire sur eux était une façon justement de dialoguer avec eux. Alors, et c'était ces dialogues se tournaient autour de ce que je cherchais chez eux. C'était la réponse à cette énigme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette expérience intérieure de vide béatifique. Comme ça, et je me suis intéressé à des écrivains qui avaient affaire à l'expérience intérieure, sous cette forme-là ou sous une forme voisine. Et je les interrogeais sur ce qu'ils pouvaient m'en dire et qu'ils pouvaient m'éclairer sur ce qui m'était arrivé.
Ce vide béatifique est-il revenu dans votre existence, Catherine Millot ?
Il est revenu de façon très nette au cours de mon analyse, un peu vers la fin de mon analyse avec Lacan. J'ai connu comme ça quelques jours, comme ça, la première fois ça avait duré quelques semaines de vide béatifique.
Quelques semaines, mais ça veut dire quoi alors ?
Ça veut dire de vivre dans ce vide, en même temps on pouvait évidemment mener une vie ordinaire, mais sur le fond de ce vide. Et ça m'est arrivé ensuite, donc à la fin de l'analyse de mon analyse avec Lacan, que ça se rouvre et que ce vide soit à nouveau tout à fait présent. Et ce vide, c'est quelque chose. Alors par la suite, je peux pas dire que je l'ai revécu de cette manière aussi particulière, enfin aussi intense, mais peut-être ai-je trouvé à travers l'écriture quelque chose qui m'en rapproche. C'est-à-dire, c'est comme si l'écriture, pour moi, était un performatif qui le produisait, ce vide, qui l'engendrait en quelque sorte. Et voilà, donc ça a été pour moi le prix de le caractère précieux pour moi de l'écriture, c'était de me relier à ce vide qui...
Mais ce vide n'est pas vide.
Mais c'est un vide qui est ici, qui est tout à fait... Enfin,
c'est pas le néant de l'existence, c'est pas le noir
non,
absolu,
c'est
les
un
ténèbres.
Vide, justement, c'est pas un vide de manque, c'est pas du tout un vide de manque d'absence de désir, pas du tout au contraire, c'est quelque chose qui ouvre, c'est une liberté, au fond, c'est un vide qui libère, ou c'est un vide qui est équivalent d'une sorte de liberté intérieure. Et la liberté, c'est pas si facile d'y accéder.
J'ai l'impression que vous avez peut-être approché de nouveau ce vide quand vous êtes tombé malade. Et ce livre qui sort, qui s'intitule donc « Un peu profond ruisseau », une allusion à un poème de Mallarmé, ce vide, il était peut-être très proche de vous, parce que dans ce livre bouleversant, vous racontez comment... vous allez tomber malade, vous ne croyez pas que vous allez être atteinte par le coronavirus, ça ne tombe pas sous le sens, mais petit à petit vous vous rendez compte que les symptômes sont de plus en plus précis et que c'est peut-être cela, et puis vous partez à la dérive, vous consentez à la maladie d'une certaine façon, Catherine Millot, non ?
C'est surtout que pendant plusieurs jours, je ne me rendais pas compte de la gravité de mon état. C'est-à-dire, j'ai d'abord été, il faut dire, au bout de... Ce sont des amis qui m'ont...
Oui, parce que vous viviez
secouru.
Seul.
parce que j'étais seule, parce que ma compagne était en séjournée en Inde à ce moment-là, donc j'étais seule, et j'ai deux amies qui se sont souciées de mon état. L'une, la première, a fait venir SOS Médecin. SOS Médecin m'a envoyé aux urgences, le médecin des SOS Médecin m'a envoyé aux urgences, et aux urgences, ils n'ont pas voulu me garder, estimant que mon cas ne justifiait pas une hospitalisation.
Parce qu'il y avait déjà trop de malades dans les hôpitaux.
Alors, il y avait déjà, ils craignaient qu'il y ait du monde, et puis ils pensaient que mon état n'était pas trop grave. Et simplement, ils ne m'ont pas dit de faire attention au taux de saturation, de faire revenir un médecin deux jours après, disons, pour surveiller les choses. Si bien que je me suis dit que ma foi, ce n'était pas si grave. Et puis, trois jours après, j'avais beaucoup, beaucoup de fièvre, mais trois jours après, la fièvre était un peu tombée. Et c'est une amie qui est venue me ravitailler, m'apporter de la soupe, parce que je ne pouvais pas manger autre chose, et qui a eu l'impression que je manquais de souffle, et qui a fait revenir SOS Médecin. C'est elle qui a décidé, qui m'en a fait. Et là, ils m'ont renvoyé aux urgences, et là, ils se sont aperçus que j'avais un taux de saturation extrêmement bas, et qui était vraiment... Enfin, j'étais dans un service de réanimation, sous oxygène, à côté d'un respirateur, parce qu'ils pensaient qu'il allait peut-être falloir m'intuber, et ils m'avaient expliqué ce que c'était, le coma artificiel, que ça pouvait durer 3 semaines, enfin, c'était... Donc, effectivement, je me suis dit que là, c'était... J'étais... Enfin... La première nuit d'hospitalisation, j'ai pensé que j'allais peut-être mourir, mais j'ai
tranquille, hein, vous étiez tranquille.
Très tranquille, justement. Alors là, je pense que cette tranquillité était très due, enfin, était certainement pour une bonne part due au fait que j'avais un taux d'oxygène dans le sang tellement bas que du coup, ça vous met dans une espèce d'état qui n'est pas du tout de l'euphorie, mais qui est un détachement. Enfin, en tout cas, j'ai fait l'expérience de ne pas avoir eu peur à ce moment-là, de ne pas avoir été angoissée. Et après coup, dans les jours qui ont suivi, où quand même j'ai pu échapper à l'intubation, avec l'oxygène donc a fonctionné, enfin, j'ai pu me remettre un peu. Eh bien, le fait de ne pas avoir eu peur de mourir m'a donné de la force. Et donc, je raconte comment ça s'est déroulé.
Parleriez-vous de renaissance et parleriez-vous aujourd'hui, maintenant que vous êtes sorti d'affaire, de cette pandémie et de cette terrible maladie, avez-vous l'impression d'une intensité supplémentaire de votre existence? Parce qu'au fond, vous ne parlez que de ça, que du sentiment d'exister depuis de nombreux livres. Mais dans ce livre-là, oui, plus particulièrement, nous, lectrices et lecteurs, on a l'impression que vous êtes très heureuse de vivre. Et vous n'aviez pas peur de mourir, mais vous êtes quand même très heureuse d'être là.
En tout cas, effectivement, j'ai senti... J'ai mesuré ma vitalité. C'est ça. J'ai pris la mesure de cette vitalité qui m'a permis d'affronter l'état de dénuement, enfin, dans lequel on se trouve, d'incapacité physique dans lequel cette maladie m'avait plongé. Enfin, j'avais jamais été aussi malade de ma vie. Enfin, c'est-à-dire, à la limite, incapable de me laver les dents. En tout cas, j'étais obligé de m'asseoir pour ça, enfin, de m'asseoir pour tout. Enfin, je pouvais aller à la salle de bain quand j'étais hospitalisé. C'était un effort faramineux. Enfin, c'est quelque chose de que je n'aurais pas puis imaginer, enfin, c'était en quelques jours comme ça, de me trouver aussi affaibli. Et je pense que effectivement l'énergie vitale que j'ai mise simplement à affronter au jour le jour ces difficultés physiques, ça en effet, c'était quelque chose de qui devait bien correspondre.
De surhumain.
Enfin, surhumain, non, mais bien sûr que non, parce que l'humanité passe son temps à affronter des situations difficiles. Hein. C'est au contraire très humain. Enfin, Alors, une renaissance, je ne sais pas si je parlerai de renaissance, c'est un peu grandiloquent. Mais c'est certain que je me suis sentie, dans les mois qui ont suivi, une grande vitalité. Et puis aussi le fait de pouvoir me remettre à écrire, ça faisait des années quand même que je n'écrivais pas, ça a fait partie de ce retour de vitalité, enfin de cette perception d'une vitalité.
En tant que psychanalyste, que pensez-vous aujourd'hui que nous sommes apparemment en train de terminer le cycle de l'épidémie ? Que pensez-vous des conséquences psychiques qui vont peut-être et qui commencent déjà à surgir ?
Alors, d'abord, je vous trouve optimiste. Je ne suis pas du tout sûre qu'on en ait fini avec cette épidémie. C'est bon, j'espère que je me trompe, hein, mais je n'exclus pas qu'il puisse y avoir à nouveau de nouveaux pics, des nouvelles vagues. Je n'exclus pas. C'est quand même une maladie extrêmement retorse et imprévisible. Pour ce qui est des effets, je pense qu'en effet, les effets psychiques sont importants, ont été importants pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens qui ont vécu les choses de façon très, très difficile. Alors, parmi mes patients, il y en a quelques-uns qui l'ont mal vécu, mais dans l'ensemble, pas trop, quand même. Tout dépend de la manière dont on vit, tout dépend des contacts sociaux qu'on a pu conserver pendant ces différents confinements. Donc là, je pense que c'est vraiment très individuel aussi, la façon dont chacun a traversé cette période si étonnante. Enfin, au moment où j'étais hospitalisé, c'était le premier confinement qui était le plus dur. Ce Paris désert, enfin, c'était quelque chose, une vision, mais hallucinante. Je veux dire que je n'avais été stupéfaite il est même difficile de s'en souvenir à quel point ça semblait irréel.
Et le temps, peut-être, va cicatriser toutes ces blessures psychiques. Peut-être.
C'est indécidable. Hein. C'est indécidable. Enfin, je peux pas dire grand-chose, je ne sais pas comment. Enfin, je sais en tout cas que j'ai une patiente qui était assez déprimée de cette période, et peut-être aussi le fait que j'ai été malade n'est pas étranger à cette dépression dans laquelle elle s'est trouvée plongée. Bon, c'est quelqu'un qui en est sorti. Donc, je pense que effectivement, il y a une... Enfin, des ressources, les gens ont heureusement des ressources. Et d'ailleurs, on sent un regain d'activité très, très vif en ce moment, dans les restaurants, les terrasses, les cafés, la présence des gens dans les rues, c'est quelque chose, on sent que les gens ont envie de retrouver quelque chose de la vie.
Comme si on allait vite oublier, peut-être. Comme s'il y avait une volonté.
C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on oublie simplement parce que ça avait un côté impensable. C'est quelque chose, il s'est produit quelque chose qui était impensable et qui le reste. Qu'on ait pu, que toute la planète ait pu avoir affaire à ce virus et être mise à l'arrêt aussi, de la façon dont elle a été mise à l'arrêt, c'est quelque chose qui est proprement inconcevable. Donc voilà, c'est en effet quelque chose qui peut se retrouver recouvert. Très vite, recouvert par l'oubli, on passe à autre chose, on oublie ce gouffre qui s'est ouvert finalement.
En tout cas, on ne peut pas oublier que nous sommes humains, donc que nous sommes mortels. C'est aussi un thème récurrent à l'intérieur de l'écriture de tous vos livres, Catherine Millot, mais plus particulièrement de celui-là, Un peu profond ruisseau, où la maladie du coronavirus vous a frappé en plein cœur. Je voudrais qu'on écoute la voix de Pascal Quignard. Pascal Quignard que vous citez souvent, comme vous citez souvent Beckett, qui sont manifestement des écrivains qui nourrissent votre sentiment de l'existence. Pascal Quignard va parler de son approche de la mort et de la manière dont il écrit. C'était en septembre 2020.
Mais il faut dire que l'hémorragie est quelque chose de très doux. Ça n'est pas du tout une mort quand on voit les morts dont on parle aujourd'hui avec l'épidémie de suffocation. Ça doit être absolument terrible. Une hémorragie n'est pas une suffocation. Une hémorragie est une façon, comment dire, c'est une faiblesse, c'est un affaiblissement. C'est une mort que je nous souhaite, Laure, si je peux dire. Il y a des morts qui sont quand même plus douces que l'autre. J'ai besoin de tout répéter, de tout. Je ne vis pas sans que ceci ne se soit en effet répliqué comme que. Il me faut accuser le coup de ce que je vis. Il me faut chaque jour de ma vie, il n'y a jamais eu de vacances, chaque jour pendant 3 ou 4 heures, rééprouver un peu ce que j'éprouve pour enfin l'éprouver. Je suis fait ainsi avec un temps de retard.
Nous venons d'entendre la voix de Pascal Quignard et on peut dire que vous conversez avec l'écriture de Quignard et que vous êtes sans arrêt, vous, Catherine Millot, en relation avec vos propres rêves. Alors vous me direz, pour une psychanalyste, c'est normal que vous fassiez l'interprétation de vos rêves. Ce qui est peut-être assez singulier, c'est que de temps à autre, y compris maintenant, vous reviennent des rêves de l'adolescence. C'est ce que vous racontez dans votre dernier livre. Je vais lire un court extrait. « Me revient brusquement à l'esprit un rêve de l'adolescence qui m'avait fait une vive impression. » On m'avait condamné à mort. Ce jugement me plongeait dans un paroxysme d'angoisse et de révolte. Puis soudain, je consentais à mourir et ce consentement m'apaisait entièrement. Ceux qui m'avaient condamné étaient plusieurs, un aéropage. La condamnation n'était pas un châtiment, elle n'était liée à aucune faute. Le verdict n'était pas motivé par l'hostilité. Ces juges, mais était-ce des juges, étaient d'une parfaite équanimité. » Rêvez-vous encore qu'on vous condamne à mort?
Ah non. Non, mais
ça vous fait rire.
Oui, ça me fait rire. Non, mais bien sûr, parce que ça, s'il y a quelque chose qui disparaît avec l'analyse, c'est le cauchemar. C'est une chose tout à fait évidente. On ne fait plus de cauchemar. Mais d'une certaine façon, la réalité... là, avec ce virus qui m'est tombé dessus, c'était de cet ordre. Hein. J'ai vu les médecins, l'attitude des médecins à mon égard. Il me signifiait quelque chose de cet ordre.
Hein. Le mot mort, c'est fini.
Oui, enfin, je veux dire que c'était pas une condamnation, mais enfin, en tout cas, c'était un risque certain. Enfin, voilà, mais enfin, ce rêve, j'ai mis très longtemps à le déchiffrer, puisque je ne l'ai déchiffré qu'il y a quelques années. Hein, c'est justement un rêve qui traduisait finalement la parole du médecin à ma naissance. Je l'ai transformé en, je l'ai pluralisé, c'est-à-dire que dans un rêve, il y avait un aréopage, mais c'était de cet ordre-là, avec y compris avec l'équanimité. C'était pas un châtiment. C'était comme ça, avec aussi une certaine dose d'indifférence. Hein,
un dernier mot. On a l'impression, à la fin de votre ouvrage, peut-être par la grâce de l'écriture, Catherine Millot, que votre angoisse se transforme en sérénité.
Ah ben l'angoisse, ça fait assez longtemps que je ne suis plus angoissée.
Mais alors vive la psychanalyse.
Ben absolument. Je peux dire que l'angoisse que j'en ai été libérée par la psychanalyse, c'est certain. Et mon analyse avec Lacan. C'est-à-dire que ça fait maintenant un bail que j'en suis... Alors ça peut m'arriver d'avoir un... Mais même, je peux même pas dire que je sois parfois anxieuse. Enfin, je peux être un peu énervée, soucieuse, mais l'angoisse, au fond, je ne sais pas plus ce que c'est.
Ben, merci beaucoup. Quelle belle leçon de vie, de courage et d'espérance vous nous livrez dans ce nouveau livre qui s'intitule « Un peu profond ruisseau ».
Certains ont dit il est fou, ont vu danser dans les rangs et les rues, ont cru dur comme fer que mon cœur était mou, que je chevauchais le fou. Certains y ont vu un refus, ont juré que j'attrapais le ciel à main nue, que j'en faisais des barricades dans la rue.
C'est avec Regard de Barba Gallo que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Catherine Millot. Je rappelle que ce livre, Un peu profond ruisseau, vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Louise Tempero, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, à réaliser cette émission. Après le prochain journal, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.